Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraoui, effectivement, avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont là pour vous éclairer. Ils sont deux ce soir. Amdin Si, ici dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Amdin, bonsoir. Amdin, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et puis nous retrouvons Élisée Nkpatine depuis Boyukon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Oh, bonsoir Yacouba Ouédraogo et bienvenue au Bénin.
Merci Élisée. Les clubs qualifiés pour la phase de groupe des compétitions africaines sont situés sur leurs adversaires. La CAF a procédé la semaine dernière au tirage au sort de la Ligue des Champions et de la Coupe CAF. Nous revenons aussi sur le Mondial 2030 qui sera co-organisé par le Maroc, le Portugal et l'Espagne. Et puis, nous évoquerons justement la fenêtre FIFA à venir. Merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. On connaît la composition des groupes pour la Ligue des Champions CAF. Le tout-puissant Mazembe, qui effectue son grand retour en phase de groupe après 2 ans d'absence, partage la poule A avec les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns, les Égyptiens du FC Pyramide et les novices mauritaniens du FC Nouadhibou. Amdin, si je commence par vous, ce groupe est quand même relevé.
Oui, c'est le groupe le plus relevé de ce tirage de la Ligue africaine des champions, puisque si vous regardez le groupe, il y a déjà 2 équipes qui ont déjà gagné cette Ligue des champions. Je vous parlais de Mamelodi, mais du tout-puissant Mazembe, qui a gagné quand même cette compétition à 6 reprises. D'abord, il fallait retourner sur l'ancienne formule. Le tout-puissant Mazembe l'avait déjà gagné en 67 et en 68. Et ensuite, pour la nouvelle formule qu'on appelle communément la Ligue africaine des champions, le tout-puissant Mazembe a gagné en 2009, 2010 et 2015. Le tout-puissant Mazembe qui revient en force dans cette compétition avec l'arrivée du technicien sénégalais. Je vous parlais de Lamine Diaye qui avait amené cette équipe jusqu'à la finale de la Coupe du Monde des clubs. C'était en 2010. Donc, le tout-puissant Mazembe sera le favori logique de ce groupe A, mais il y a aussi les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns qui ont déjà gagné ce trophée en 2016. Mais attention aux Pyramides, Pyramides aussi, qui a été créé en 2008 et ils ont déjà gagné la Coupe de la CAF. Ils ont déjà, gagné la Coupe de la CAF. Donc, c'est une équipe à prendre au sérieux. Mais le petit poussé reste le FC Nouadhibou qui jouera pour la première fois de son histoire la phase de poule de la Ligue africaine des champions. D'ailleurs, c'est le premier club mauritanien à avoir accédé à ces phases de poule. Donc, c'est un groupe très, très relevé, Yacouba.
Le groupe B regroupe les Marocains du Wydad Casablanca, les Tanzaniens de Simba SC, les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa et les Botswanais de Joanneng Galaxy. Le Wydad devra aussi assumer son statut de favori de cette poule, nous dit Amin Birouk.
A priori, l'expérience du Wydad pourrait faire la différence. On se rappelle aussi que c'est la 9e qualification consécutive en phase de groupe du Wydad de Casablanca qui va non seulement être engagé en Champions League, mais aussi lors de la future Super League à la fin du mois d'octobre contre Enyimba du Nigeria. Et a priori, ce tirage semble dans les cordes du club casablancais qui a l'ADN de la Champions League avec un déplacement périlleux en Tanzanie, certes, et un autre en Côte d'Ivoire, mais a priori, ce sont des adversaires à la portée. La symbolique des retrouvailles avec la SEC d'Abidjan, puisque en 1992, les deux équipes s'étaient affrontées en demi-finale et le Wydad s'était qualifié pour sa première finale et était en route vers son premier sacre grâce au fameux but à l'extérieur. Simba est une équipe habituée à ce stade de la compétition et va devoir bien évidemment batailler fort. Et puis la SEC, c'est son retour. Reste l'inconnue botswanaise, l'équipe de Galaxy, mais on rappellera qu'elle a à son tableau de chasse les Orlando Pirates d'Afrique du Sud lors du tour précédent. Il va falloir bien évidemment se méfier de ses déplacements. Pour le Wydad, la feuille de route est très claire, faire le plein de victoires à domicile et essayer de grignoter au moins un succès en déplacement pour pouvoir s'assurer la première place et avoir la certitude de disputer le quart de finale avec notamment un match retour à Casablanca.
Le groupe C renferme deux ténors tunisiens, l'Espérance de Tunis justement et l'Étoile du Sahel, les Angolais de Petro de Luanda, demi-finalistes en 2022, souvenez-vous, et Al-Hilal du Soudan. Alors Élisée, les Soudanais voudront quand même bousculer la hiérarchie qui semble établie dans ce groupe.
Et bien évidemment, puisque quand on prend quand même ce groupe, le tenant du titre, le national Al-Ahli du Caire, pas d'office est favori devant quand même cette équipe du CR Belouizdad qui a fait bonne sensation, même si bon, elle n'est pas allée très loin la saison écoulée, mais c'est une équipe qui commence pas à être fréquent dans cette Ligue des Champions, il faut l'avouer. Maintenant, en face, il y a les Young Africans qui ont été sacrés champions de la Tanzanie devant le Simba qui est allé jusqu'en quart de finale la saison écoulée. Les Young Africans, les Yanga comme elle les appelle, étaient finalistes de la Coupe de la CAF, une finale perdue devant l'USM Alger, vous imaginez. Donc c'est une équipe qui est dans la continuité et qui a beaucoup d'expérience au niveau de cette compétition, puisque et déjà on le sent lors de ces éliminatoires où elle n'a pas cette formation, j'allais dire, n'a pas tremblé avant de se qualifier pour la phase de poule. Maintenant, les Ghanéens de Mediama, le Ghana qui commence pas à retrouver le haut niveau de la compétition africaine des clubs, puisque ça fait déjà plus de 10 ans qu'aucun club ghanéen n'est pas venu à se qualifier en phase de poule de la Ligue des Champions. Donc, en tout cas, pour le moment, Al-Ahli et les autres, on pourra le dire, Al-Ahli qui pourra se qualifier facilement sur papier, bien évidemment sur papier. Maintenant, les autres, quand je parle des autres, ce sera entre le CR Belouizdad, le Yanga de la Tanzanie et bien sûr le Mediama du Ghana.
Alors, Élisée qui anticipait justement et qui nous parlait de ce groupe D composé du tenant du titre Al-Ahli d'Égypte, mais aussi avec le CR Belouizdad de l'Algérie et les Tanzaniens des Young Africans. Alors, Amdine, je reviens à vous pour le groupe C qui renferme deux ténors, je disais, tunisiens, l'Espérance de Tunis et l'Étoile du Sahel. Et en plus, il faut ajouter les Angolais de Petro du Luanda, demi-finalistes en 2022, et Al-Hilal du Soudan. Je le disais, les Soudanais...
Le duel entre les deux clubs tunisiens. Les deux clubs ont déjà gagné cette Ligue des Champions, surtout l'Étoile sportif du Sahel qui a gagné ce trophée en 2007, 2011 et en 2018. Maintenant, il y a l'expérience de Tunis qui l'avait gagné en 1994. Donc, ces deux clubs tunisiens vont partir avec la faveur des pronostics. Mais attention, comme tu l'as dit, au poteau athlétique de Luanda qui a été demi-finaliste. Maintenant, on va essayer de suivre ce groupe avec attention. Et Al-Hilal aussi, et Al-Hilal. Donc, ce groupe, pour moi, c'est équilibré. Mais les clubs tunisiens, avec ce duel entre ces deux clubs, sera à suivre, Yacouba.
En Coupe CAF, ce sera la première édition sans club reversé de la Ligue des Champions. Le tenant du titre, l'USM Alger, qui a récemment gagné aussi la Super Coupe de la CAF, est logé dans le groupe A avec Futur FC d'Égypte, Super Sport United d'Afrique du Sud et Al-Hilal Benghazi de la Libye. Alors Élisée, la bonne nouvelle peut-être pour l'USM Alger, c'est qu'en dehors de son long déplacement en Afrique du Sud, les autres déplacements se feront tous en Afrique du Nord.
Oui, puisque il y a bien évidemment le Futur FC d'Égypte, le club qui vient d'engager un international junior béninois, et Imram Hassan, l'ancien joueur de l'Auto Popo, du Grand Popo, ce jeune joueur qui a plein d'avenir, il faut le dire, qui a déjà goûté trois fois déjà à la sélection Fanion, la sélection A, bien évidemment. Donc après ça, il y aura quand même les Libyens d'Al-Hilal. Donc en tout cas, c'est un groupe à la portée des tenants du titre, mais nous le savons tous, puisque quand on parle du football des clubs sur le continent, eh bien, surtout quand vous êtes en déplacement, c'est souvent difficile de jouer des équipes qui sont en domicile, et cette fois-ci, bien évidemment, il y a les Sud-Africains des Sport United qui se reviennent sur le continent après trois ans d'absence, donc vous imaginez, donc on aura rien que des rencontres palpitantes. Attention, puisqu'il ne faudra pas négliger les trois autres adversaires, je parle bien sûr du tenant du titre, l'USM Alger.
Alors, Amdine, dans la poule B, en dépit de sa petite forme, le Zamalek part quand même favori devant les Angolais de Sagrada Esperanza, l'Académie SORR de Kouya de Guinée et Abo Selim de la Libye.
Oui, tout à fait. Zamalek, on connaît, c'est une équipe très expérimentée. Les représentants égyptiens ont toujours quand même brillé au niveau des compétitions africaines, que ce soit en Ligue des Champions ou au niveau de la Coupe de la CAF. Donc, comme vous l'avez dit, malgré les performances, ils partiront avec la faveur des pronostics. Maintenant, pour le reste, on va dire que c'est équilibré parce que il y a un club angolais qu'on ne connaît pas tellement bien, mais il y a aussi ce club guinéen, une académie de football qui crée la sensation en se qualifiant pour la première fois de l'histoire aussi au niveau de cette Ligue africaine des champions, un club libyen. Donc on va dire que tout se jouera pour la deuxième place, mais je pense que la qualification du Zamalek ne souffrira d'aucun doute. En tout cas, on est en football, il faut faire attention, mais balotage favorable pour les étudiants de Zamalek et Yakuba.
Dans le groupe D, la Renaissance sportive de Berkane, qui a gagné deux des quatre dernières éditions de la Coupe CAF, justement, doit user d'expérience, il faut le dire, pour faire face aux Sud-Africains de Sekou Loumé United, au Diable Noir du Congo et au stade malien de Bamako. On va écouter tout de suite Amine Birou qui nous parle de cette équipe de la Renaissance sportive de Berkane.
On pourrait parler du tirage clément pour la Renaissance sportive de Berkane, club qui est habitué à bien se comporter en Coupe de la CAF avec notamment deux succès en 2020 et 2022, plus une finale perdue en 2019. Le tirage comporte un adversaire de taille, au moins sur le papier, à savoir le stade malien. Il va falloir aussi se méfier de ce déplacement au Congo face au Diable Noir et puis essayer de ne pas laisser des plumes en Afrique du Sud face à cette formation de Sekou Kouné que personne ne connaît, qui est le cendrillon de la compétition. Berkane, pour l'instant, domine le championnat du Maroc. C'est l'équipe qui s'est le plus renforcée au Mercato et qui semble avoir trouvé un nouveau souffle dans le championnat, à confirmer dans la compétition fétiche du club berkanais qui est devenu aujourd'hui un bastion de la Coupe de la CAF, en attendant peut-être de faire mieux et de passer à la dimension supérieure en Champions League.
Dans la poule C, les Tunisiens du club africain, les Nigériens du Rwaves United, Dream FC du Ghana et l'Epici Lobito de l'Angola se disputent donc les deux premières places qualificatives pour les quarts de finale. Élisée, léger avantage tout de même pour les Tunisiens et les Nigériens.
Oui, quand on prend leur vécu, bien évidemment, un club africain de Tunis a déjà une certaine expérience sur le continent, comme les Rivers United qui, par le passé, disputaient même la Ligue des Champions, puisque c'est un club qui joue pratiquement les premiers rôles du championnat nigérian, même si il n'est pas souvent champion, puisque là, le Nigeria peut placer deux clubs dans les différentes compétitions des interclubs de la CAF. Donc aujourd'hui, il y a Dream FC du Ghana qui quand même a fait une forte sensation la saison écoulée dans le championnat ghanéen en terminant sixième, mais est allé chercher le titre de la Coupe du Ghana. Donc vous imaginez, c'est une équipe qui quand même regorge des joueurs talentueux issus de son centre de formation. Et après, il y a le Lobito d'Angola, ce club-là, qui, par le passé, si Jules était là, il pouvait nous édifier un peu par rapport à ce club. Lobito, par le passé, était un club qui jouait les premiers rôles dans la Gira Bola d'Angola. C'est vrai que depuis un moment, ce club a disparu complètement. Eh bien, il est de retour sur le continent africain. Ça va être une poule, j'allais dire, très disputée. C'est vrai que nous voyons les Nigériens de Rivers United et le club africain de Tunis, qui manque maintenant un peu de sérieux dans le travail, mais depuis un certain moment, eh bien, puisque le championnat tunisien se joue à deux poules désormais. Donc on voit le club tunisien jouer les premiers rôles désormais dans le championnat tunisien. Et j'espère qu'on verra une très belle affiche, de très bons matchs dans ce groupe C où, pratiquement, comme vous venez de le dire, ça va se jouer entre Nigériens et Tunisiens.
La Coupe du Monde reviendra en terre africaine 20 ans après l'édition de 2010 en Afrique du Sud. Pendant 40 ans, disons, après, puisque c'est la Coupe du Monde 2030, et donc 20 ans justement, après l'édition 2010 en Afrique du Sud, les confédérations européennes, africaines et sud-américaines de football se sont accordées autour d'une candidature unique pour le centenaire du mondial dont la première édition a eu lieu en Uruguay en 1930. Fawzi Lekdia, président de la Fédération royale marocaine de football.
Cette annonce et cet événement est le couronnement d'une politique de développement menée par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste depuis plus de deux décennies. C'est la traduction d'une vision stratégique royale. Aujourd'hui, on est appelé à doubler les efforts, aller vers l'avant pour effectivement réussir la meilleure Coupe du Monde que l'histoire n'ait jamais connue, comme ça a été rappelé par Sa Majesté lors de l'annonce de Kigali. Tout le monde est déterminé pour le faire, pour traduire cette ambition et de démontrer une bonne fois pour toutes que le Maroc s'aligne avec les grands États du monde.
Fawzi Lekja, président de la Fédération royale marocaine de football, au micro d'Amin Birouk, que nous retrouvons tout de suite.
C'est un immense sentiment de fierté, de joie, d'euphorie qui règne au Maroc depuis l'annonce par le cabinet royal de l'organisation de la Coupe du Monde 2030 conjointement avec l'Espagne et le Portugal. C'est le fruit d'un long processus, d'un long chemin avec de multiples tentatives avortées de la part du Maroc. Il faut remonter chronologiquement à 1986 lorsque le Maroc avait franchi le cap du premier tour de la Coupe du Monde, devenant la première nation africaine à réaliser cette prouesse, lorsque Feu Hassan II avait émis le souhait de voir son pays organiser la Coupe du Monde pour la première fois en terre africaine. Il y a eu donc de multiples tentatives pour la Coupe du Monde 94, 98, 2006. Il y a même eu un moment où, en 2010 lorsque l'annonce des candidatures ne concernait que le continent africain, où l'espoir était beaucoup plus grand, où le Maroc a cru la veille de la Coupe du Monde pouvoir organiser ce grand match du football mondial. Mais il y a eu fuite de trois voies de la CONCACAF en direction de l'Afrique du Sud, mais c'était reculé pour mieux sauter. Et même s'il y a eu le fiasco de 2026 face à la candidature commune du Canada, des États-Unis et du Mexique, le Maroc n'a jamais baissé les bras. Et aujourd'hui, c'est le fruit de la résilience, de la persévérance.
Alors, Amdine, justement, je rebondis sur les mots d'Amin. C'est une véritable leçon de résilience que le Maroc donne, lui qui s'est surtout doté d'infrastructures de qualité dans sa quête de ce mondial.
Oui, tout à fait, Yacouba. Il faut dire que la tenacité du Maroc a été récompensée car cette organisation de la grande messe du football mondial, c'est le résultat d'un travail de longue haleine, vous l'avez dit. La sixième tentative a été la bonne puisque le Maroc a été le premier pays africain à oser quand même demander l'organisation de cette Coupe du Monde. Et ils ont fait le travail qu'il fallait. Hein. Moi, je l'ai toujours dit, le Maroc n'a rien à envier au pays le plus développé sur le plan sportif. Quand tu pars au Maroc, tu regardes les infrastructures, tu te dis que c'est dans ce pays on a travaillé. On a donné au sport les moyens qu'il faut. Mon ami Élisée a eu la chance de faire partie des 150 joueurs qui ont eu à visiter comme les infrastructures sportives au Maroc. Moi, j'ai été au Maroc qui est mon deuxième pays à plusieurs reprises. Ce n'est pas pour rien que les pays qui n'ont pas d'infrastructures sportives au niveau du continent choisissent le Maroc pour organiser le match là-bas. En tout cas, Sakouba au Maroc qui a fait un travail colossal. Le travail a été récompensé pour ces dirigeants marocains. Mais moi, ma seule inquiétude, ce sera une Coupe du Monde qui va se jouer sur trois continents. Et trois continents. Mais on va voir d'ici 2030 ce qui va se passer, Yacouba.
Qu'est-ce qui s'est passé en attendant Doka 2030 dans les coulisses de cette attribution? Nous retrouvons Amin Birouk.
Et par rapport aux coulisses, le timing de l'annonce, personne ne l'attendait parce que tout le monde croyait qu'il allait y avoir une campagne classique avec lobbying, négociation, présentation des candidatures et aller au vote lors du congrès qui aura lieu à la fin de l'année 2024 en Thaïlande. Mais visiblement, le conseil de la FIFA a accéléré le process et le Maroc et l'Afrique ont pu peser de tout leur poids parce qu'aujourd'hui, les voix conjuguées du continent africain qui ferait bloc autour du Maroc, plus celle de l'UEFA qui voterait en masse pour la candidature hispano-portugaise, a fait en sorte que la majorité requise ne dépend que de ces deux confédérations. Du coup, l'Amérique latine a dû baisser les bras et la CONMEBOL a dû se contenter de ces rencontres inaugurales et non match d'ouverture avec notamment la symbolique du centenaire qui sera fêtée avant le démarrage effectif de la Coupe du Monde. Ce sera en Argentine, surtout en Uruguay, un peu au Paraguay, mais l'essentiel de la Coupe du Monde aura lieu en Afrique du Nord.